Bon, si vous voulez, on va reprendre la deuxième partie de la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer le deuxième cours, je voudrais rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire dans mon premier cours. C'est que, évidemment, dans cette revue que j'essaie de présenter cette année, malgré tous mes efforts, je ne peux pas être exhaustif. Je ne peux pas couvrir tous les développements. Et ma présentation est nécessairement un peu biaisée en particulier par les domaines auxquels je me suis personnellement intéressé, par le laboratoire dans lequel j'ai travaillé. Donc je m'en excuse auprès des autres, mais bon, j'essaie quand même de donner une vision aussi générale que possible, mais forcément, elle ne peut pas être exhaustive et forcément, elle est biaisée par mes propres sujets de préoccupation. Et en particulier, le cours numéro 2 que je fais maintenant sur les méthodes optiques, j'ai tenu à le faire parce que je voudrais montrer sur ce cours l'importance de la contribution d'Alfred Kastler et Jean Brossel, et je voudrais par ce cours leur rendre hommage, parce que je crois qu'ils ont réellement joué un rôle absolument fondamental et crucial dans le développement de la physique atomique dans notre pays, et plus généralement de la physique. Donc, ce que je voudrais faire dans ce premier cours réellement, c'est présenter les expériences originales utilisant la lumière émise et de résonance et absorbée par les atomes pour détecter la résonance magnétique dans les états excités fondamentaux. Comment on peut de cette manière créer une différence de population entre le niveau de la transition hertzienne et comment on peut détecter optiquement tout changement de ces populations induit par la résonance magnétique. Je voudrais discuter les caractéristiques intéressantes et originales de ces méthodes. Et puis, je voudrais aussi en profiter pour approfondir quelques points délicats au sujet duquel j'ai eu de nombreuses discussions avec Jean Brossel, en particulier sur le renversement de Majorana, sur le mécanisme d'orientation des spins nucléaires et sur la réduction de l'effet Doppler par effet Dicke, phénomène qui a toujours son actualité aujourd'hui. Le problème de la réduction de l'effet Doppler est toujours un problème actuel. Donc, d'abord, la double résonance. Je l'explique d'abord sur une transition la plus simple possible, une transition qui est celle qui a été étudiée expérimentalement, une transition entre un état fondamental de moment cinétique nul et un état excité de moment cinétique 1. Alors, dans un champ magnétique, on a un niveau Zeeman en bas et trois sous-niveaux Zeeman équidistants dans le niveau supérieur. On excite sélectivement, en utilisant une polarisation pi, le niveau M et E égale 0. Même si l'arrêt excitatrice est très large, ce qui est le cas des premières expériences, il n'y avait pas de laser en 1951, en 1950, quand cette expérience a été faite, il n'y avait évidemment pas de laser, et évidemment la largeur spectrale est beaucoup plus grande que l'écart entre les niveaux Zeeman, mais comme elle est polarisée, on excite sélectivement le niveau M égale 0. Ça c'est la règle de sélection associée à la conservation du moment cinétique. Puis, pendant le temps que passe l'atome dans l'état excité, il y a des transitions de radiofréquence résonantes qui se produisent entre 0 et plus 1 et moins 1. Puis, l'atome retombe dans l'état fondamental et on détecte la lumière qui rémet, soit la lumière sigma plus, soit la lumière sigma moins. Le principe de cette expérience est exposé donc dans une note au compte-rendu d'Alfred Kastler et Jean Brossel en 1949. Alors, ils ont eu indépendamment la même idée. Jean Brossel effectue une thèse à MIT dans le laboratoire de Francis Bitter. Et Francis Bitter l'avait invité à venir dans son laboratoire. Il avait une idée différente pour détecter la résonance magnétique dans l'état excité. Il prétendait que si on faisait la résonance magnétique dans l'état excité, l'effet Zeeman disparaîtrait. C'était une idée inexacte. Il s'est révélé qu'elle était inexacte. Et en fait, ce qu'il avait plus ou moins dans l'idée, c'était l'effet Oppenheimer. Quand on fait une transition de résonance magnétique dans l'état excité, ça va changer les fréquences d'absorption de l'arrêt optique. Mais il n'était pas question de détecter ça avec les largeurs de rayons qu'on avait à l'époque. Et l'expérience ne pouvait pas marcher. Brossel a eu cette idée, il était d'ailleurs très embêté parce qu'il avait commencé son travail de thèse sur l'autre méthode et s'est avéré que ça ne marchait pas. Puis il a eu cette idée, indépendamment, Kastler l'a eu à Paris. Kastler, lui, avait eu l'idée sur la transition 1/2-1/2. Il raisonnait sur les alcalins. Et à son action, une transition 1/2-1/2, on excite en sigma plus. L'atome, qui passe de moins 1/2 à plus 1/2, dans l'état excité, il subit la résonance magnétique, et puis il retombe dans l'état fondamental et on détecte la résonance par observation de la lumière sigma moins. Alors, laissez-moi d'abord expliquer les résultats de Brossel obtenus sur la transition 0,1. ils sont représentés ici, voilà un réseau de courbes de résonance magnétique détecté sur la lumière sigma, qui est, sigma c'est une polarisation linéaire perpendiculaire au champ magnétique, c'est une superposition de sigma plus et sigma moins, en fonction du champ magnétique, et chacune de ces courbes correspond à une amplitude différente du champ de radiofréquence. Et vous voyez qu'on observe des courbes qui ont la forme d'une courbe de résonance, qui croît, qui s'élargit, et qui, à intensité suffisamment forte, présente un renversement, qu'on appelait le renversement de Majorana pour des raisons que j'ai expliquées dans un petit moment. Je signale que ces courbes sont théoriques, et les points sont expérimentaux. Donc il y avait une précision remarquable des résultats expérimentaux. Alors, comment on calcule cette forme de ray? C'est très simple. Si vous revenez à ce que j'ai dit tout à l'heure, la ray est large, l'excitation est en ray large, donc on excite de manière instantanée, on évolue, on détecte, les trois phases sont indépendantes. Donc voilà ce qu'on fait. L'excitation en ray large prépare instantanément l'atome dans l'état n égale 0. Il y a N0 atomes excités par l'unité de temps. Pendant le temps que l'atome passe dans l'état excité, il évolue sous l'effet du champ de radiofréquence. Alors, l'effet du champ de radiofréquence dans le référentiel tournant, c'est une rotation autour du champ de radiofréquence, à la fréquence de Rabi, V1. Et cette rotation, c'est la rotation d'un spin 1, puisque dans l'état excité, on a un moment cinétique 1. Et les matrices de rotation d'un spin 1, on les connaît, c'est spin très simplement en fonction des matrices de rotation d'un spin 1,5. Et par suite, on peut calculer la probabilité pour que, partant à un instant donné de l'état 0, pardon, partant à l'instant donné de l'état m égale 0, après un instant t, l'atome soit passé dans l'état plus 1. Maintenant, à cause de la durée de vie radiative de l'état excité, un atome ne reste pas indéfiniment, la probabilité qu'il reste dans l'état excité décroît exponentiellement et puissance moins gamma t. Donc à un instant donné, il faut sommer la contribution de tous les atomes qui ont été excités dans le passé et qui, étant excités dans le passé, ont subi la rotation pendant un temps t variable et puis se désexcitent à l'instant de l'observation. Donc on est ramené à n plus 1, le nombre en régime stationnaire, le nombre d'atomes dans l'état plus 1, c'est n0, le nombre d'excités par unité de temps, que multiplie cette probabilité d'excitation pendant un temps t, pondéré par la puissance moins gamma t, avec t intégré de 0 à l'infini. Ceci se calcule analytiquement et conduit au résultat suivant, n plus 1, c'est n0 sur 2, oméga 2, la fréquence de Rabi au carré, et puis ce facteur-là, avec 4 delta 2 plus gamma 2 plus oméga 2, plus ce produit de 2 quantités ici. Delta ici, c'est l'écart entre la fréquence oméga du champ de radiofréquence et la fréquence Zeeman. Oméga, c'est la fréquence de Rabi. Donc cette expression est exacte, et c'est elle qui est utilisée pour tracer les courbes théoriques de la figure 2,6. En particulier, si on prend cette formule et qu'on prend la largeur de la courbe à mi-hauteur du maximum, de la valeur à, pour delta égale 0, on trouve que le carré de la largeur porté en fonction du carré de oméga 2 est une droite qui s'extrapole à 4 gamma 2 pour oméga tendant vers 0. Donc en prenant ce réseau de courbes, en traçant la droite à mi-hauteur, le carré de la droite en fonction de oméga 2, on peut mesurer la largeur gamma de l'état excité. Donc la fréquence de résonance donne le facteur G de l'état excité, la largeur donne gamma, donc on mesure ainsi le facteur gyromagnétique et la largeur naturelle de l'état excité. Alors, le calcul peut être fait aussi pour une transition en demi-1/demi, il donne le résultat suivant, avec les mêmes notations, et vous voyez qu'à ce moment-là, ceci c'est une simple courbe de Lorentz, qui a une largeur gamma 2 plus oméga 2, c'est donc une largeur qui est non seulement gamma, mais oméga, c'est-à-dire un élargissement radiatif. Par contre, pour transition 0,1, nous avons vu qu'il y avait un renversement aux puissances élevées. Et alors, la question qu'on se pose, et qu'on a, je vous l'ai dit, discuté très longuement au laboratoire, c'est d'où vient ce renversement? Il sort du calcul, bon, mais d'où il vient? Alors, il me semble que pour essayer de le comprendre, une approche perturbative est mieux adaptée. Alors, essayons de prendre les expressions précédentes et développons-les en puissance d'oméga. Alors, pour une transition en demi-1/demi, on a le terme d'ordre le plus bas, l'oméga 2, qui est une Lorentzienne, et puis le terme suivant, qui est oméga 4 sur delta 2 plus gamma 2 au carré, qui est un oméga 4. Et donc ça, c'est le début du développement du oméga 2 qui est au dénominateur de l'expression exacte. Et donc ce terme-là décrit l'élargissement radiatif. Si par contre on prend l'expression pour un moment cinétique 1, on trouve ce premier terme d'ordre 2, mais il y a deux termes d'ordre 4, celui-là qui ressemble au précédent, qui va décrire un élargissement radiatif, et celui-ci qui est nouveau, et qui, vous voyez, est plus simple, parce qu'au dénominateur, on a une courbe en 4 delta 2 plus gamma 2, donc c'est une courbe qui a une largeur deux fois plus petite que la précédente, et ainsi de moins. Donc on retranche à la courbe élargie une courbe plus fine, et c'est ce terme-là qui est responsable du renversement de Majorana. Ok, donc, d'où vient ce thème? Alors, pour cela, il est intéressant d'essayer d'étudier les processus les uns après les autres. Alors, pour une transition 1,5, si on part du niveau plus 1,5, alors le plus bas, la seule chose que peut faire l'atome, c'est passer dans le niveau moins 1,5. C'est un processus à un photon. L'amplitude est en oméga, la probabilité en oméga 2. Si on va à l'ordre suivant, alors on part de là, on part nécessairement de là, donc on est obligé d'aller là. Et une fois qu'on est ici, la seule chose qu'on peut faire, c'est revenir en arrière, revenir ici. Et comme on est intéressé à la probabilité dans le niveau moins 1,5, on retourne une deuxième fois dans moins 1,5. Donc, à l'ordre suivant, qui est un oméga cube, on a une transition comme ceci, on retourne dans plus 1,5 et on repart dans moins 1,5. Donc c'est une transition de 1,5 vers moins 1,5, suivie d'un aller-retour vers plus 1,5. Et c'est l'interférence entre cette amplitude et cette amplitude, amplitude d'ordre 1, amplitude d'ordre 3, qui va donner un terme en oméga 4. Donc l'élargissement radiatif, c'est l'interférence entre ces deux processus. Alors, on comprend bien. Passons maintenant dans le niveau 1, J égale 1. Alors ce coup-ci, on parle de J égale 0, de M égale 0. Alors, à l'ordre le plus bas, si on s'intéresse à la probabilité d'arriver dans plus 1, c'est l'absorption d'un photon de radiofréquence, on part de 0 à 1. Ordre 1. Ordre 3 en oméga, d'abord, on peut faire la même chose que tout à l'heure, aller dans 1, puis revenir dans 0, puis repartir dans 1, et ces deux diagrammes-là sont les mêmes que précédemment, et c'est eux qui vont donner l'élargissement radiatif, mais vous voyez que maintenant, on a une autre possibilité, partant de 0, au lieu d'aller tout de suite dans 1, on peut aller dans moins 1, revenir dans 0, puis aller dans plus 1. Et c'est en fait l'interférence entre ce processus et ce processus qui donne le dernier terme, plus 1, qui est responsable du renversement de Majorana. Donc je crois que le renversement de Majorana est donc dû à une interférence quantique entre un processus à un photon et un processus à trois photons, pardon, où l'atome fait un aller-retour vers un autre sous-niveau Zeeman avant d'aller dans le niveau final, plus 1. Alors, je trouve ça assez amusant, d'ailleurs, que dans son travail de tête, Brossel avait mis le doigt sans s'en rendre compte sur deux effets qui vont jouer un rôle important par la suite, les multiphotons, les transitions à plusieurs photons d'une part, et d'autre part, les interférences entre amplitudes différentes. L'amplitude faisant intervenir un nombre de photons différents. Donc, c'est ce que je dis ici. Donc, c'est donc une interférence entre un processus à un photon et un processus à trois photons. Bon, alors, quelques années plus tard, une année plus tard, Kassler publie en 50 la méthode du pompage optique, que je rappelle brièvement ici, je suis sûr que vous la connaissez très bien en détail. On a des atomes contenus dans une cellule, éclairés par un faisceau lumineux sigma plus, et si je prends une transition 1,5 pour simplifier, avec deux sous-niveaux Zeeman en bas, deux sous-niveaux Zeeman en haut, la transition sigma plus ne peut exciter que cette transition-là. La lumière sigma plus ne peut exciter que cette transition-là. Une fois que l'atome est dans l'état excité, il retombe soit de cette manière, par émission spontanée d'un photon sigma plus, auquel cas il peut recommencer le même cycle, soit par émission d'un photon pi dans le niveau plus 1,5, auquel cas il demeure piégé dans cet état, parce qu'il n'y a pas de transition sigma plus qui part d'un niveau plus 1,5. Donc, c'est le schéma qu'avait proposé Alfred Kassler en 1950, dans le journal physique, et d'après ce que m'a dit Bernard Cagnac, c'était le procédé. C'est le compte-rendu d'une réunion de la Société française de physique. Et ça explique peut-être pourquoi Jean Brossel n'était pas signataire de cette note. Et c'est un peu dommage parce que un des grands drames d'Alfred Kassler, ça a été que Jean Brossel ne partage pas le prix Nobel avec lui. Il est certain que s'il avait publié ensemble ce papier, ils auraient eu ensemble le prix Nobel. C'est l'histoire qu'on ne peut pas refaire. Donc, quel est le bilan de moment cinétique dans cette histoire? Pour revenir en arrière, il me semble d'ailleurs que si Kassler a eu l'idée du pompage optique de cette manière, c'est parce qu'il avait commencé la double résonance sur la transition 1,5-1,5. Quand on étudie la double résonance sur la transition 1,5-1,5, on ne peut pas ne pas se poser la question qu'est-ce qui se passe si je retombe par émission spontanée dans l'autre état. Donc c'est clair qu'on regarde les deux systèmes qui ont été étudiés par l'un et par l'autre, pourquoi l'idée du pompage optique est arrivée sur la transition 1,5-1,5. Alors, je reviens maintenant à la discussion du sujet. Vous avez vu qu'un photon sigma plus disparaît, un photon pi apparaît, donc le champ a perdu un moment cinétique plus 1, Et l'atome est passé de moins 1,5 à plus 1,5, l'atome a gagné le moment cinétique plus 1. Donc le pompage optique, c'est un transfert de moment cinétique des photons vers les atomes. Vous voyez aussi que si l'efficacité du pompage optique est grande devant les processus de relaxation qui en permanence tendent à égalité les deux sous-niveaux Zeeman, on va avoir des différences de population très importantes. Et un taux de polarisation proche de 100% peut être atteint. Maintenant, également, si on voyez que comme l'atome ne peut absorber de la lumière que si dans le niveau moins 1,5, il n'y a pas de transition sigma plus qui part de plus 1,5, toute variation de la population du niveau moins 1,5 induite par la radiofréquence ou induite par des collisions ou induite par n'importe quel processus peut être détectée optiquement. Donc on voit sur cet exemple les deux rôles de la lumière permet de polariser les atomes, elle donne ici un signal sensible proportionnel à la population d'un sous-niveau Zeeman. Alors, ceci me permet maintenant de discuter très rapidement l'intérêt de ces méthodes et de montrer pourquoi elles ont eu un impact si important. D'abord, elles permettent d'atteindre des taux de polarisation de spin extrêmement élevés, à température ordinaire et en champ magnétique bas. Dans les expériences usuelles de résonance magnétique, on utilise les signaux de résonance magnétique sont proportionnels à la différence de population de sous-niveau entre lesquels s'effectue la transition. D'habitude, on utilise le facteur de Boltzmann. Et ce facteur de Boltzmann est extrêmement faible à température ordinaire et dans des champs magnétiques faibles, mais on compense ce faible facteur de Boltzmann par un grand nombre de spins. Dans la matière condensée, on a 10 puissance 21 spins par centimètre cube, donc on a un grand nombre de spins, même si le taux de polarisation est faible, la différence de population qui est de sous-niveau est importante, et on a des signaux importants. Par contre, dans des échantillons gazeux, le facteur de Boltzmann ne donne aucun espoir, parce que le nombre de spins est extrêmement faible, et les méthodes de pompage optique, en augmentant le taux de polarisation, permettent de pouvoir détecter la résonance magnétique, même si on a un échantillon aussi dilué qu'un échantillon gazeux. Deuxième point important, c'est la grande sensibilité. Vous avez vu que si on a pompé l'atome d'un niveau plus 1,5 en bas, une transition de résonance magnétique de plus 1,5 à moins 1,5 en bas peut être détectée par l'absorption d'un photon optique, et il est beaucoup plus difficile de détecter un photon optique qu'un photon de radiofréquence. Dans les expériences habituelles de résonance magnétique, on détecte la résonance par mesure de la puissance radiofréquence absorbée ou émise au cours de la transition. Donc, on combine ainsi la sensibilité, la précision des mesures de radiofréquence avec l'efficacité des méthodes de détection optique. Et en particulier, cet avantage est décisif lorsque, dans l'état fondamental, la structure provient uniquement du noyau. La structure Zeeman provient du noyau. Il y a des atomes qui ont un moment cinétique électronique nul dans l'état fondamental, et dont le moment cinétique dans l'état fondamental provient uniquement du noyau. À ce moment-là, les deux états, spin up et spin en bas, sont des états nucléaires, séparés par une énergie extrêmement petite, et détecter la résonance magnétique nucléaire est extrêmement difficile. Ici, la transition plus 1,5 moins 1,5 est toujours détectée par un photon optique. Pourquoi ? Parce que la transition plus 1,5 moins 1,5 fait toujours intervenir une unité de moment cinétique. Alors que si on détectait l'énergie, elle ferait intervenir une énergie Zeeman nucléaire qui est beaucoup plus petite. Troisième point, c'est une résolution élevée. Dans le domaine de radiofréquence, l'effet Doppler est négligeable. Il peut être, donc, on peut mesurer une structure Zeeman de manière extrêmement précise. Vous avez vu des courbes tout à l'heure. Si on voulait détecter optiquement, si vous voulez mesurer optiquement, il faudrait mesurer la différence entre deux raies optiques qui ont une largeur Doppler ou même naturel et qui est beaucoup plus grande et la résolution en spectroscopie optique est beaucoup plus faible. Dans le domaine hyper fin, micro-ondes, l'effet Doppler est de l'ordre du kilohertz, il devient plus négligeable devant les largeurs de rayons qui peuvent être de l'ordre de quelques hertz et à ce moment-là, c'est l'effet Dicke qui permet d'éliminer cet effet Doppler. Autre point très important, je crois que c'était la première fois dans les expériences de physique atomique qu'on voyait clairement des situations hors d'équilibre. Avec les méthodes de pompage optique, on peut peupler le niveau supérieur, Zeeman, de manière plus importante que le niveau inférieur. On peut sortir du facteur Boltzmann. On peut sortir de l'équilibre. Et cette propriété est extrêmement importante. Je crois que c'est les discussions autour de ces idées qui ont permis l'éclosion des idées sur les masers et les lasers. En particulier, les premiers masers qui ont été réalisés, c'est des masers dans le domaine des micro-ondes, où on réalisait la détection de population par des méthodes de sélection magnétique ou électrique sur des molécules d'ammoniac. Mais l'idée du pompage optique était là aussi, on essayait de dire par pompage optique, on va peut-être réussir d'autres inversions de population. Et je crois que ça joue un rôle important dans l'émergence des idées sur le laser. Et entre parenthèses, plusieurs masers utilisant une pompette optique ont été réalisés. Il y a aussi une idée importante, c'est que si on a écarté le système de l'équilibre par pompage optique, et si on arrête le faisceau de pompage, le système va revenir à l'équilibre. Et à ce moment-là, en appliquant de nouveau un faisceau optique, on va pouvoir suivre ce retour à l'équilibre. Et ça, ça donne l'idée fondamentale des méthodes pompe-sonde. On pompe le système, on le sort de l'équilibre, et avec une sonde, avec un certain délai par rapport à la première, on peut suivre le retour à l'équilibre. Alors, je voudrais donner quelques exemples d'expériences de pompage optique sur le cas des isotopes du mercure. Le mercure est intéressant, ça a été un atome très populaire au laboratoire parce qu'il a plusieurs isotopes, des isotopes pairs qui n'ont pas de spin nucléaire, avec une transition 6,1063P1 à 253,7 nanomètres. Alors, pour ces isotopes pairs, l'état fondamental est non dégénéré. Il a un moment symétrique orbital et de spin nul, S égale 0, L égale 0, J égale 0. Et dans l'état excité, on a S égale 1, c'est un état triplé, J et L égale 1, donc J égale 1, J égale 2, J égale 0. Alors, on m'intéresse à la raie 6,3P1. Alors, comme c'est une raie qui relie un état singulier à un état triplé, si le couplage était LS pur, la raie serait interdite. Mais pour un atome lourd comme le mercure, le couplage puis l'orbite est important, et la raie est partiellement permise, mais elle conduit à des raies fines. La durée de vie de l'état excité n'est pas très très courte. Elle est de l'ordre de 10-7 secondes, comparée à l'autre niveau 6,1P1 qui lui est permis l'arrêt de l'ordre, la durée de vie de l'ordre de 10-9 secondes. Le mercure a également des isotopes impairs, 199 AG, spin nucléaire en demi, 201 spin nucléaire 3/2. Alors, regardons l'isotope 199 AG. Dans l'état fondamental, pas de magnétisme électronique, un magnétisme nucléaire. Et dans l'état excité, P1, donc on couple un niveau, un moment cinétique électronique 1 au spin nucléaire 1/2, on a donc deux niveaux, 3/2, 1/2. Donc on a une structure hyperfine dans l'état supérieur. Et cette structure hyperfine est de l'ordre de 10 GHz. Elle est importante. Et il se trouve que, à l'époque, disons, il n'y avait pas de laser. Hein, donc il fait, des sources accordables, on n'en disposait pas, mais il se trouve que des raies d'isotopes pairs ont des fréquences proches de la raie 1/2-1/2. L'isotope 204 du mercure a une raie unique qui est proche de cette transition. Et comme l'autre niveau est très éloigné, on réalise ici un système particulièrement simple d'une transition 1/2-1/2. Et voilà par exemple un exemple de raie de résonance magnétique tiré de la thèse de Bernard Cagnac en 1960, où on voit des courbes de résonance magnétique dans l'état fondamental de 199 AG. Je rappelle qu'il y a une résonance nucléaire. Les deux niveaux de spin sont des deux niveaux de spin nucléaire dans des champs magnétiques tout à fait raisonnables, de l'ordre de quelques gausses, et vous voyez la précision de la mesure. Je ne sais pas si c'est visible. C'est ici, c'est un cycle sur 178-271. Donc, on mesure de manière optique une résonance nucléaire à température ambiante et dans un champ magnétique et de l'ordre du champ terrestre. Mesure de haute précision d'un moment magnétique nucléaire. Voici une autre expérience réalisée par Bernard Cagnac dans sa thèse de doctorat, où on voit ici donc, le signal d'absorption à partir du niveau moins 1/2. Donc, on applique, voilà, il n'y a pas de lumière, on applique le faisceau de pompage optique, le signal arrive à ce niveau-là, correspondant à des populations égales, et puis le niveau moins 1/2 se vide par pompage optique, et on tombe vers le régime stationnaire. Ça, c'est le régime stationnaire atteint par pompage optique. Alors, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a atteint le régime stationnaire par pompage optique, on coupe le faisceau de pompage, le système revient à l'équilibre dans le noir, et on réapplique le faisceau de pompage un instant bien défini après, et on revoit de nouveau l'exponentiel de pompage optique. Et si on recommence la même expérience pour diverses valeurs du temps de coupure, on voit apparaître ici la relaxation des spins dans le noir. Les spins relaxent dans le noir de l'état hors d'équilibre dans lequel ils ont été placés par pompage optique vers les quatre pompages optiques, et on peut mesurer ainsi ce qu'on appelle le temps de relaxation terme. Ça, c'était, je crois, une des premières exemples d'application de la méthode pompe-sonde. Alors, à ce propos, on peut se poser la question suivante, qui est une question extrêmement troublante. Le champ électrique de l'onde lumineuse qui arrive sur les atomes est couplé à l'électron. C'est l'électron qui met en mouvement. Il n'a dit pas du tout, il n'y a aucun couplage avec le spin du noyau. Comment on peut, donc, par quelque chose qui n'est pas couplé au noyau, polariser le spin nucléaire? Ça, c'est un problème un peu surprenant. Et je vais essayer de l'analyser en détail pour illustrer un petit peu les considérations générales que j'ai dites tout à l'heure, en prenant un système 1,5-1,5, qui est le cas de l'isotope 199, qui est aussi le cas des isotopes du cadmium et du zinc. Donc on a une transition J égale 0, J égale 1, avec un spin nucléaire 1,5, un niveau hyper fin I égale 1,5, F égale 1,5 dans l'état fondamental, et deux niveaux hyper fins 1,5, 3,5 dans l'état excité, séparés par la structure hyper fine. Et supposez d'abord qu'on excite le système par une raie de largeur delta très très grande devant la structure hyper fine dans l'état excité. Partons de l'état moins 1,5 dans l'état fondamental. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'excitation à ce moment-là était ultra brève, et pendant le temps d'excitation, la structure hyper, le couplage hyperfin n'a pas le temps de s'établir. Donc, pendant l'excitation, le spin nucléaire reste spectateur, il n'est pas affecté, et le spin électronique passe de 0 à plus 1. Donc, pendant ce temps-là, à l'issue du processus d'excitation, le spin nucléaire n'a pas changé, et le nombre quantique magnétique électronique est passé de 0 à plus 1. Donc on prépare l'atome dans l'état mj égale plus 1, mi égale moins 1,5. Pendant le temps de vie 1 sur gamma de l'état excité, à ce moment-là, le couplage hyperfin, lui, il a le temps de s'établir. Le temps de gamma est 1 sur gamma est suffisamment long. Et vous savez que le couplage hyperfin, I scalaire ici, conserve mi plus mj. Donc le couplage hyperfin va coupler l'état mj égale plus 1, mi égale moins 1,5, à l'état mj égale 0, mi égale plus 1,5, qui ont la même valeur du nombre mf égale mi plus mj. Donc vous voyez que grâce au couplage hyperfin, mi va pouvoir passer de mi égale moins 1,5 à mi égale plus 1,5. Donc sous l'effet du couplage hyperfin, le spin va se polariser par interaction avec l'électron polarisé. Et puis l'émission spontanée, elle, dure un temps ultra bref, et dans l'émission spontanée, si l'atome est dans cet état-là, il va rester dans le même état, mi plus 1,5, et mj va passer dans l'état fondamental, le spin électronique va disparaître, on va se retrouver dans l'état plus 1,5. Donc, je redécris le pompage dans cette base-là, les deux sous-niveaux dans la base mi et mj, les deux sous-niveaux mi dans l'état fondamental, il n'y a pas de valeur de mj, et dans l'état excité, mj égale 0, mj égale plus 1, mj égale moins 1, et mi égale plus 1,5, moins 1,5. Le pompage ne change pas mi, mais il fait passer mj de 0 à plus 1, instantanément. L'interaction hyperfine coupe ces deux états qui ont la même valeur de mf, delta mi plus mj égale 0, et l'émission spontanée ne change pas mi, et donc va faire passer de mi égale plus 1,5 à mi plus 1,5, donc voilà le mécanisme de pompage du spin nucléaire. On voit donc que le spin nucléaire mais orienté dans l'état excité grâce à l'interaction hyperfine. Et pour avoir un pompage plus efficace, il faut que le couplage hyperfin WHF ait le temps d'agir pendant la durée de vie de l'état excité. Il faut donc que WHF, qui multiplie la durée de vie de l'état excité 1 sur gamma, soit grand devant 1. Il faut donc que WHF soit grand devant gamma. Donc, pour pouvoir pomper les atomes dans l'état fondamental, il faut que la structure hyperfine dans l'état excité soit grande devant gamma, devant la largeur naturelle. Alors, on peut d'ailleurs faire, en mécanique quantique, on peut faire la description dans n'importe quelle base. Donc, on peut reprendre le même problème dans la base FMF. Si on prend le problème dans la base FMF, on a le niveau F égale 1,5, le niveau F égale 1,5, le niveau F égale 3,5 avec MF, les valeurs de MF qui sont ici. Le pompage sigma plus satisfait la règle de sélection delta MF égale plus 1. Donc, si on part de cet état, moins 1,5, les deux états auxquels on arrive sont plus 1,5 ici et plus 1,5 ici. Donc, on peut exciter deux sous-niveaux de MF égale plus 1,5 appartenant aux deux niveaux hyperfin différents. Maintenant, le faisceau lumineux constitué de paquets d'ondes très brefs, chaque paquet d'ondes a une largeur spectrale beaucoup plus grande que la structure hyperfine. C'est ce que j'ai supposé tout à l'heure. Autrement dit, ces deux sous-niveaux-là, moins 1,5, 1,5, 1,5 et 3,5, 1,5, peuvent être excités de manière cohérente par l'impulsion de par chaque paquet d'ondes. La phase de chaque paquet d'ondes est aléatoire, mais la différence de phase entre les deux composantes de fréquence susceptibles d'exciter ces deux transitions est bien définie. Donc, à l'issue de l'excitation, l'atome n'est pas excité dans un mélange statistique de ces deux sous-niveaux Zeeman, mais il est excité dans une superposition linéaire. Et à ce moment-là, la matrice densité dans l'état excité est non diagonale. Et c'est cette non-diagonalité de la matrice densité qui va permettre de faire le pompage optique. Et les deux sous-niveaux aimants sont excités avec des coefficients proportionnels aux coefficients de Clebsch-Gordan qui sont écrits ici, de sorte que, à l'issue du processus d'excitation, l'atome est dans cet état, et si vous revoyez vos formules de composition de moments cinétiques, cet état-là dans la base FMF, ce n'est rien d'autre que l'état mg égale plus 1, mi égale moins 1,5, qui est l'état que j'avais obtenu par un raisonnement très simple. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ces problèmes ont été étudiés de manière extrêmement détaillée. Ça a été le sujet de thèse de Jean-Claude Lehmann, qui a étudié successivement le cas du pompage optique du cadmium et du zinc. Alors, pour le cadmium, WHF est de l'ordre de 3 gamma, et on peut faire un pompage optique possible. Par contre, pour le zinc, WHF est plus petit que gamma, et le pompage optique est impossible. Donc, vous voyez ici, sur ces exemples-là, on voit très bien c'est l'importance de ce raisonnement sur les temps caractéristiques associés à chaque processus. Alors, maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe si on excite en raie étroite? Par exemple, c'est le cas du mercure 199Ag. Dans le cas du mercure 199Ag, la raie 204, l'isotope 204, excite sélectivement la composante hyperfine 1,5-1,5. L'écart entre les deux niveaux hyperfins est plus grand que la largeur de la raie. À ce moment-là, on excite sélectivement le niveau F égale 1,5. Alors, à ce moment-là, il faut raisonner de la manière suivante. L'excitation à ce moment-là, qui dure un temps 1 sur delta, elle dure un temps plus long que le couplage hyperfin entre les deux niveaux excités. Et donc, pendant le temps d'excitation, le couplage hyperfin a le temps de s'établir, et c'est pendant l'excitation à ce moment-là que le spin nucléaire est polarisé. Donc, vous voyez, ça fait une situation différente. Là, alors que tout à l'heure, c'était pendant le temps passé dans l'état excité que le spin nucléaire était polarisé, par couplage hyperfin, c'est maintenant pendant le temps d'excitation du processus lui-même, qui dure un temps suffisamment grand devant le temps, l'inverse de la structure hyperfine, que le spin nucléaire a le temps de se polariser. Bon, je passe maintenant à un autre exemple, qui me paraît particulièrement intéressant, c'est l'exemple de l'hélium. L'hélium a un état fondamental, E1F0, ça c'est l'isotope paire de l'hélium, mais il y a deux isotopes pour l'hélium, l'hélium 4 qui a un spin nucléaire nul et l'hélium 3 qui a un spin nucléaire en demi. Et le premier état excité, c'est l'état 2, 3 et 5 qui est à 20 électronvolts au-dessus de l'état fondamental. Donc il est hors de question, tout au moins pour l'instant, de faire du pompage optique à partir de l'état fondamental. L'arrêt est trop dans l'ultraviolet lointain pour pouvoir disposer de sources adéquates. Par contre, l'état de triple S1 est un état métastable qui a une durée de vie de l'ordre de l'heure. Donc, quand on fait une décharge, on peut mettre un certain nombre d'atomes dans cet état, et il reste un temps suffisamment long pour qu'on puisse pratiquement considérer cet état comme une sorte d'état fondamental. Une durée de vie très longue. Et à partir de l'état 2,3S1, il y a plusieurs transitions, en particulier celle-là, à 1083 nanomètres, qui permettent de passer de l'état 2,3S1 au triplé 2,3P012. Et comme on est un atome léger, le couplage spin orbite n'est pas très important, et l'état triplé est bien séparé de l'état singulier. Quand l'atome est excité dans l'état triplé P, il ne retombe pas dans l'état fondamental. Il retombe essentiellement, le rapport de branchement dans l'état fondamental est très petit, il retombe essentiellement dans l'état de triplé S1, et ça permet de faire du pompage optique, du refroidissement laser sur cette transition. Il y a également la raie bleue à 389 nanomètres. Alors, on peut donc, si on prend l'isotope impair hélium 3, 1,5, on peut faire du pompage optique dans cet état et orienter le spin nucléaire dans l'état métastable. Et à cela, on peut se poser la question suivante, est-ce qu'il est possible de transférer cette polarisation nucléaire qui a été obtenue dans l'état de 3S1, est-ce qu'il est possible de la transférer à l'état fondamental? Alors là, il y a une contribution majeure de Colgrove, Schirrer et King-Walter en 1963, qui est l'idée suivante. Quand on a un atome dans l'état métastable qui entre en collision avec un atome fondamental, la métastabilité, l'excitation électronique, peut passer de l'un à l'autre, ce qu'on appelle un échange de métastabilité. Un atome A dans l'état fondamental, un atome B dans l'état métastable, collision donne un atome A dans l'état métastable, un atome B dans l'état fondamental. Il y a un échange de métastabilité. Le temps de collision, qu'un temps de collision, c'est typiquement 10-12, 10-13 secondes, ce temps de collision est extrêmement court, et pendant ce temps de collision, le spin nucléaire, qui est un lourdeau, Il n'a pas le temps d'évoluer. C'est trop court pour lui. Il a des temps caractéristiques beaucoup plus longs. Donc, le spin nucléaire, qui a été polarisé dans l'état métastable de l'atome B, lorsque l'échange de métastabilité se produit, il reste dans le même état. Et s'il était polarisé dans l'état métastable, il va se retrouver polarisé dans l'état fondamental. Et on obtient ainsi donc un transfert d'orientation nucléaire par collision des champs de métastabilité. Et on peut ainsi polariser optiquement l'état fondamental de l'hélium. Kassler aimait appeler cet effet un principe de Van Condon, finalement. C'est un principe de Van Condon étendu au spin nucléaire. C'est la même idée. Dans une transition moléculaire aussi, les noyaux n'ont pas le temps de bouger. C'est le principe de Van Condon. Ici, le spin nucléaire n'a pas le temps de changer dans une collision qui change l'état électronique. Alors, il y a toute une série d'expériences sur l'hélium 3 polarisé qui ont été extrêmement fécondes, où le laboratoire a joué un rôle important, Pierre-Jean Nassé, Michel Leduc, Jacques Duporoc, et bien d'autres, et sur le fluide quantique polarisé. Pourquoi c'est important? C'était, je crois, les précurseurs des études sur les gaz quantiques dégénérés. En effet, l'hélium est un gaz qu'on peut refroidir à la température de l'hélium liquide, à 4 degrés K. À 4 degrés K, la longueur d'onde de Debye est suffisamment importante. Elle est suffisamment importante, non pas devant la distance entre atomes, elle est encore petite devant la distance entre atomes, mais elle est grande devant la portée du potentiel d'interaction. Donc si on a un gaz d'atomes d'hélium 3 polarisé froid, la distance entre atomes est grande devant la portée du potentiel, et si les spins sont polarisés, vous savez que d'après le principe de Pauli, les deux spins ne peuvent pas s'approcher à mieux que lambda de Debye, et à ce moment-là, ils ne voient plus d'interaction. Donc en jouant sur la polarisation, on peut contrôler l'interaction apparente des deux atomes et obtenir un gaz parfait. Donc si les spins sont polarisés, le système se comporte comme un gaz parfait et ses propriétés de transport, conductivité thermique, propriétés de transport, viscosité, onde de spin sont modifiées de manière spectaculaire. Et ça a été un des premiers domaines de recherche où on s'est intéressé à des effets de l'indiscernabilité des particules identiques à température suffisamment basse. Toute une série de conférences sur les spins, les fluides quantiques polarisés qui a été initiée par Franck Laloé, Claire Lhuillier, et sur ces sujets. Cible polarisée pour la physique nucléaire, qui est importante, qui a été étudiée en particulier par Ernst Hotten, le magnétomètre, et puis plus récemment, imagerie de résonance magnétique des cavités pulmonaires, l'idée étant de faire inhaler à un patient un mélange d'hélium 3 polarisé et d'air. On remplit ses poumons d'un gaz polarisé, et à ce moment-là, le taux de polarisation est suffisamment important pour pouvoir détecter la résonance magnétique par des méthodes traditionnelles. Enfin, optiquement, on ne va pas mettre un faisceau optique dans les cavités du poumon, on le détecte par absorption, mesure de la puissance à RF absorbée, et j'aime beaucoup le cliché suivant, qui montre à gauche une image de résonance magnétique des cavités pulmonaires détectée par les méthodes habituelles qui détectent les protons des molécules d'eau, où on voit à ce moment-là les côtes, l'œsophage, la trache artère, le cœur, l'estomac. On ne voit pas les cavités du poumon, il n'y a pas beaucoup de protons dedans. Par contre, si on remplit d'hélium 3 polarisé et qu'on fait une image IRM, on voit à ce moment-là uniquement les cavités vides du poumon, et on ne voit plus les côtes, on ne voit plus le cœur, on ne voit plus l'estomac. Donc, c'est une méthode complémentaire qui permet maintenant, qui se révèle être un outil important de diagnostic des maladies pulmonaires. Ces expériences se continuent au laboratoire actuellement dans le groupe de Pierre-Jean Haché, Geneviève Tastevin, après les travaux de Michel Leduc, et il y a plusieurs laboratoires dans le monde qui continuent à travailler sur ces sujets. Le domaine de recherche a été en fait initié il y a quelques années par Will Happer à Princeton, qui a montré l'intérêt de ces méthodes de pompage optique appliquées à de l'imagerie par résonance magnétique. Bien, alors je passe maintenant à l'effet Lambdicke. Alors, d'abord, l'effet Doppler. L'effet Doppler, si on réfléchit, qu'est-ce que c'est que l'effet Doppler? C'est une conséquence directe du transfert d'impulsion. En effet, si on prend un atome libre, quand l'atome absorbe un photon, son impulsion passe de PI initial à PI plus H bar K après l'absorption du photon. Et son énergie cinétique, qui est PI plus H bar K au carré sur 2m moins PI au carré sur 2m, les termes en pi carré se simplifient, on va avoir un terme en h bar 2k2 sur 2m, qui est l'énergie de recul, et puis un terme produit scalaire de pi et de h bar k, qui n'est rien d'autre que l'effet Doppler. Donc, l'effet Doppler et l'énergie de recul, ça résulte de la variation d'énergie cinétique d'un atome lorsqu'il absorbe un photon et qu'il encaisse l'impulsion du photon absorbé. Bon, ça c'est parfaitement clair. Si maintenant l'atome est dans un puits de potentiel, quand il absorbe le photon, il ne peut plus, il recule plus librement, il est lié aussi au potentiel. Alors on peut se poser la question, comment l'atome va-t-il encaisser l'impulsion du photon lorsqu'il absorbe le photon? Et comment ça va se traduire sur les fréquences qu'il émet ou qu'il absorbe? Alors là, je vais faire l'hypothèse, qui est très souvent vérifiée, mais qui n'est pas toujours vérifiée. Je vais faire l'hypothèse que les variables internes, les variables électroniques internes, sont complètement découplées des variables de translation, les variables externes. Plus exactement, je suppose que l'écart d'énergie entre le niveau interne B excité A fondamental est le même quel que soit le point où l'atome se trouve dans le potentiel de piégeage. Si vous voulez, l'effet Stark associé au potentiel de piégeage peut être négligé, ou au moins il est le même en haut et en bas. D'accord ? Donc, l'écart entre les niveaux internes ne dépend pas du potentiel de piégeage. Ça veut dire que les niveaux de vibration dans l'état électronique supérieur et dans l'état électronique inférieur sont les mêmes et ne dépendent pas de la position ici. On a exactement les mêmes courbes de potentiel et les mêmes niveaux de vibration EN, EN et P. Ces deux puits avec leur niveau étant simplement décalés par l'énergie H bar oméga 0 de la transition optique entre A et B. Donc il y a un découplage complet entre les variables internes et les variables externes. À ce moment-là, on voit très bien que les raies pouvant être émises ou absorbées par les atomes sont des raies dont les fréquences sont H bar oméga 0 plus EN moins EM, plus une différence entre une énergie de vibration EN et une énergie de vibration EM. Si EN est M, si EN est égal à M, on pourra parler d'une raie à zéro phonon. Le nombre quantique de vibration ne change pas. S'il change d'une unité, on peut parler d'une raie à un phonon, à deux phonons, à trois phonons. Alors, on peut se poser maintenant la question, quelles sont les intensités de ces raies? La Hamiltonienne interaction entre atomes et rayonnement, à l'approximation dipolaire électrique que je suppose satisfaite ici, c'est proportionnel, il y a un terme qui est proportionnel à moins, le produit scalaire du dipôle D par epsilon de la polarisation par I puissance IKR. I puissance IKR, c'est quand on développe le champ en onde plane, électromagnétique, en onde plane, c'est le terme qui caractérise la dépendance spatiale du champ électromagnétique, K c'est le vecteur d'onde du rayonnement. Et l'intensité de l'arrêt, bien sûr, puisque ça c'est la méthode d'interaction, c'est, on prend l'état de départ, phi n, l'état final de vibration phi m, on prend cet élément de matrice qui va se factoriser, parce que cet élément de matrice, ça ne peut intervenir que les variables internes, les variables internes apparaissent ici, c'est r, la position du champ de masse, c'est puissance ikr entre phi n et phi m, en module au carré. Et je vois apparaître que l'intensité de l'arrêt MN va être reliée à l'amplitude phi n et puissance IKR phi n, qui est une interprétation physique très simple. Vous savez que l'opérateur et puissance IKR, c'est un opérateur de translation dans l'espace des impulsions. Donc, cet élément de matrice peut être considéré comme la fonction d'onde phi n translatée de H bar K, et on en prend le produit scalaire avec la fonction d'onde phi m. Donc, pour avoir l'amplitude de la transition NM, on prend l'état initial N, on le translate de H bar K et on prend le produit scalaire avec phi M. Alors ceci, donc, tout de suite, une remarque importante, ça va terriblement dépendre de la localisation de l'atome. Comment caractériser cette localisation? Je suppose que l'atome est très bien localisé dans l'onde laser. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la largeur delta X de la distribution spatiale du centre de masse va être petite devant la longueur d'onde du champ qui caractérise les variations spatiales du champ. Donc ça veut dire que delta x est très petit devant lambda. Si delta x est très petit devant lambda, ça veut dire que h sur delta p, qui est h sur delta x, qui est delta p, est grand devant h sur lambda. Lambda c'est 2 pi sur k, donc ça va être h delta p va être très grand devant h sur lambda, et ça c'est 1 sur lambda, ça n'a d'autre que k, à des facteurs de pi près, donc ça veut dire que delta p va être très grand devant h bar k. Donc, atome très localisé dans l'onde laser, ça veut dire delta P très grand devant H bar K. C'est-à-dire que la fonction d'onde initiale, phi n, a une largeur delta P très grande devant H bar K. Si on prend à ce moment-là cette fonction d'onde phi n qui est très large devant H bar K, que l'on translate de H bar K, on ne fait pas grand-chose. On la translate d'une quantité petite devant sa largeur, Et à ce moment-là, ça va être quasi orthogonal à phi m si phi m est différent de n. Puisque je sais que phi m et phi n sont orthogonales, c'est un jeu de fonctions orthogonales. Donc si je prends phi n et phi m qui sont orthogonales, les fonctions d'onde orthogonales, si je décline très légèrement dans l'espace des impulsions phi n, ça va rester pratiquement orthogonal. Et à ce moment-là, ça veut dire que i n m différent de n va être très petit devant i n n. Donc l'arrêt la plus intense, ça va être l'arrêt sans changement du nombre quantique de vibration, si l'atome est localisé. Alors ça, c'est l'effet Dicke. Ça veut dire que lorsqu'un atome est bien localisé dans un potentiel de piégeage, et que les variables externes sont bien découplées des variables internes, l'arrêt la plus intense en émission ou en absorption, c'est l'arrêt à oméga 0 sans changement du nombre quantique de vibration. C'est donc la suppression complète et de l'effet Doppler et de l'énergie de recul. Alors ça, c'est un effet qui a été discuté pour la première fois par Dicke dans un article important, qui est tout petit, une page, en 1953. Et Dicke, lui, considérait, d'abord il faisait un modèle classique, il considérait un atome, un émetteur, qui était entre deux murs. Et d'abord il prenait un traitement classique, prenait l'émetteur qui faisait des va-et-vient entre les deux murs à une vitesse donnée, comme ceci. À ce moment-là, le rayonnement émis et sa fréquence est changée par effet Doppler chaque fois que c'est un aller-retour. Donc la fréquence est modulée dans le temps en prenant le spectre de modulation de fréquence des fonctions de Bessel. Il trouvait que si la distance entre les deux murs était petite devant lambda, à ce moment-là c'était le J0 qui était le plus important, toutes les bandes latérales étaient négligeables. Il reprenait ensuite un calcul avec la mécanique quantique dans un puits infini carré comme ceci, et en faisant le même calcul que tu viens de faire ici, il montrait que c'était quand la largeur du puits était petite devant lambda, à ce moment-là c'était l'arrêt sans changement de nombre quantique de vibration qui était la plus importante. Alors, il y a un cas particulièrement important, c'est le cas où le potentiel de piégeage est harmonique. Si à ce moment-là, on appelle oméga b v la fréquence de vibration dans le puits harmonique, la largeur de l'état fondamental, c'est racine de h bar sur m oméga v, et delta x petit devant lambda, ça veut dire que h racine de h bar sur m oméga v est plus petit que 1 sur k, et ça veut dire que h bar de k2 sur 2m est plus petit que h bar oméga v. Ça veut dire que si je suis dans un potentiel harmonique, ça veut dire que l'énergie de recul est trop petite pour permettre à l'atome de changer de niveau de vibration. Elle est très petite devant l'écart entre énergie, un niveau d'énergie successif dans le puits potentiel. Et ce paramètre et recul sur h bar oméga v, c'est ce qu'on appelle le paramètre de Lamb-Dicke. Les rays à zéro phonon nn sont les plus intenses, elles sont d'ordre 1 en ce paramètre, et les rays à p phonon, nn plus ou moins p, ont une intensité en epsilon à la puissance p. Alors, il se trouve que les mêmes idées sont présente dans les Helmholtz-Bohr. Quand un noyau émet un rayon gamma et qu'il est piégé dans un cristal, si l'énergie de recul est petite devant les fréquences de Debye caractéristiques des vibrations dans le cristal, l'effet Doppler, l'effet de recul disparaît, et c'est le fameux effet Helmholtz-Bohr. Et d'ailleurs, il se trouve que Lamb avait rédigé auparavant un article très important sur cette histoire-là, et que c'est la raison pour laquelle on appelle l'effet Dicke maintenant l'effet Lamb-Dicke. Et d'ailleurs, Alfred Kastner, avec son sens de l'humour très développé, appelait l'effet Helmholtz-Bohr le Lamb-No-Shift. C'est-à-dire que le Lamb-Shift, c'était le déplacement de Lamb qui avait fait la gloire de Lamb, et le fait que les rays gamma n'étaient pas déplacés par cet effet qu'on appelle Helmholtz-Bohr, il appelait l'effet Lamb-No-Shift. Alors, c'est à cette époque, c'est en 1960, que cette agitation sur l'effet Helmholtz-Bohr apparaissait. Je me rappelle, je commençais mon travail de thèse de doctorat. On parlait beaucoup de l'effet Helmholtz-Bohr. Et je me rappelle que j'avais suivi les cours d'Anatole Abraham au Collège de France, qui faisait un cours sur l'effet Helmholtz-Bohr. Et je lui avais signalé l'article de Dicke. Et le fait que l'effet Doppler a été supprimé pour une transition micro-ondes. Ça l'avait beaucoup intrigué. Et ça l'avait fait s'intéresser à un problème qui est un peu différent de l'effet Dicke, c'est que dans les expériences de pompage optique de l'époque, dans 1960, les atomes qui étaient dans les cellules qu'on étudiait étaient remplis d'un gaz tampon. S'il n'y avait pas de gaz tampon, les atomes allaient d'une paroi à l'autre, et quand ils touchaient la paroi, ils étaient en général désorientés, donc le temps de relaxation, c'était le temps de vol d'une paroi à l'autre. Par contre, si on mettait un gaz tampon, d'un gaz rare, l'atome diffusé au gaz d'enfance va allonger considérablement le temps de passage de l'atome d'une paroi à l'autre. C'est parce que les collisions avec les atomes du gaz rare ne changeaient pas les états de spin et ne changeaient pas la cohérence entre les deux états de spin. D'ailleurs, c'était en fait ma première publication en 1955 ou en 1956, c'était de montrer que les raies de résonance magnétique détectées par pompage optique ne s'élargissaient pas comme étant un gaz tampon, au contraire, elles s'affinaient, parce qu'on augmentait le temps de cohérence, le temps de relaxation transversale des atomes. Donc, ce qui est remarquable, c'est que quand on met les atomes dans un gaz tampon, et quand le libre parcours moyen des atomes est petit devant lambda, il y a une sorte d'effet Dicke qui apparaît, l'effet Doppler est diminué. Mais ce n'est pas une cavité. Quand un atome qui diffuse dans un gaz tampon, ce n'est pas un atome qui est dans une boîte. On ne peut pas parler de niveau d'énergie de vibration. Donc, quel est l'équivalent de l'effet Dicke ou de l'effet Lambe-Dicke pour un atome qui diffuse au sein d'un gaz tampon? Alors, l'approche que je vais vous donner maintenant est empruntée au cours d'Abraham de cette époque, de 61. C'est très intéressant, parce que je voudrais terminer le cours d'aujourd'hui par cette analyse. Donc, de nombreuses études de transition hyperfine sont faites sur des atomes alcalins qui diffusent au sein d'un gaz rare, et les collisions au sein d'un gaz rare ne modifient pas les degrés de liberté internes. Il y a un découplage entre les degrés de liberté internes et les degrés de liberté de translation de la diffusion. Alors, on peut se poser la question, comment est modifié l'effet Doppler dans ces conditions? Alors, pour cela, ça c'est quelque chose aussi, une approche extrêmement générale qui apparaît dans tous les problèmes de physique, qui est ce qu'on appelle la réponse linéaire. Si on prend la règle d'ordre de Fermi pour une raie d'émission, la règle d'ordre de Fermi, I de oméga, dit que c'est 2 pi sur h bar, l'élément de matrice de l'hamiltonienne d'interaction atome-rayonnement entre l'état initial et l'état final du système global au carré, delta de EI moins EF moins H bar oméga, quand l'atome absorbe un photon, H bar oméga, il passe d'un état EI à un état F, il doit avoir conservation d'énergie. Il faut sommer sur tous les états finaux FF, et il faut sommer sur les états initiaux pondérés par la probabilité d'occupation. Parce qu'en général, l'état initial est un mélange statistique d'état I avec des poids pi. J'insiste sur le fait que les états I, F sont les états initiaux et finaux du système atome plus gaz tampon. C'est le système qu'on sonde avec le champ électromagnétique. Alors ça, c'est bien connu, c'est la règle de Fermi. Alors ce qui est remarquable, c'est qu'on peut réexprimer cette quantité sous forme d'une fonction de corrélation. Pour ce faire, on remarque que la fonction delta qui est ici, on peut l'écrire delta de EI moins EF moins H bar oméga, 1 sur 2 pi H bar, somme de moins l'infini à plus l'infini de dt puissance moins I oméga t et puissance moins I EI moins EF t sur H bar. Ça, c'est la représentation intégrale de la fonction delta. Si on rentre ceci là-dedans, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on fait apparaître, il y a l'intégrale sur t oméga, qui est bien sûr qu'il faudra faire, mais la sommation sur i sur f apparaît ici, somme sur pi, somme sur f, de f h i i, i h i f, et puis l'exponentielle qui est puissance moins i et i moins f t sur h bar. Maintenant, quand vous regardez cette formule, et puissance moins i et ft sur h bar, et puissance moins i et it sur h bar, si on les rentre dans cet élément de matrice, c'est l'élément de matrice de hi multiplié par les puissances i h, puissance i h0t sur h bar, et puissance moins i h0t sur h bar, où h0 est l'hamiltonien en l'absence de couplage, avec le champ laser, et on a pu rentrer donc cette exponentielle dans l'opérateur hi ici, en le mettant en sandwich entre puissance i h0t et puissance moins i h0t. Et ceci, ce n'est rien d'autre que l'opérateur HI en représentation d'interaction, en représentation d'Heisenberg. Donc, on s'aperçoit que la somme sur I et sur F, c'est la valeur moyenne sur I de pi I, à ce moment-là, on peut faire la relation de fermeture sur F, du produit de HI à l'instant 0, à l'instant T, on voit apparaître la fonction de corrélation de l'interaction. Et finalement, l'intensité de l'arrêt apparaît comme la transformée de Fourier temporelle à la fréquence oméga du produit de corrélation, de la fonction de corrélation de l'hamiltonienne d'interaction. Donc ça, c'est un résultat très important, qui relie donc un signal de mesure à l'approximation d'ordre plus bas, à l'approximation de la règle d'ordre de Fermi, à une fonction de corrélation du système qu'on sonde avec la perturbation. C'est ce qu'on appelle la réponse linéaire. Alors, est-ce qu'on peut calculer cette fonction de corrélation? Alors, je vous rappelle que HI, c'est D, comme c'est puissance et puissance IKR. Donc il faut calculer la fonction de corrélation d epsilon t et puissance IKR. Ah, là, je m'excuse, il y a une erreur, c'est d epsilon de 0. Hein, ici, il y a une erreur. C'est d epsilon de 0 et puissance moins kr de 0. Alors, comme les variables internes et les variables externes sont décuplées, je peux factoriser les variables internes, c'est d epsilon t, d epsilon 0, comme ici, la fonction de corrélation des puissances ikr de t et puissance moins ikr de 0. Cette fonction-là, le dipôle évolue librement, c'est tout simplement d epsilon carré puissance i oméga 0 t, ou oméga 0 la fréquence optique, et je remets l'expression de la forme de ray comme l'intégrale, la transformée de Fourier temporelle à la fréquence oméga moins oméga 0 de la fonction de corrélation maintenant de e puissance ikr. Et la moyenne qui apparaît ici porte à la fois sur les variables externes de l'atome et sur les variables du gaz tampon, au sein duquel l'atome diffuse. Alors, pour nous familiariser avec ce terme-là, commençons par considérer le cas simple d'un atome libre. Il n'y a pas de gaz tampon, l'atome évolue librement. Est-ce qu'on peut calculer E puissance IKR de T et puissance IKR de 0? Réponse oui. Si l'atome est libre, les équations de Heisenberg de l'atome s'intègrent immédiatement pour donner R de T égale R de 0 plus P0 sur MT et P de T égale P0. Si l'atome est libre, l'impulsion est une constante du mouvement et le mouvement est uniforme. Vitesse uniforme. Si à ce moment-là, il faut que je calcule les puissances IKR de T et puissances IKR de 0, moins IKR de 0. Je rappelle que R et P, leur commutateur au même instant, c'est tout simplement IH bar. Donc KR de 0 commutateur avec KP de 0, c'est IH bar K2. Et ce commutateur commute avec R de 0 et commute avec B de 0. Et d'après le théorème de Glauber, E puissance A plus B, c'est E puissance A, E puissance B, E puissance moins 1,5 de commutateur de AB, si AB commute avec A, et si AB, le commutateur de A et de B, commute avec A et avec B. Dans les notes distribuées, il y a une erreur, j'ai remis une deuxième fois A ici, c'est B qu'il faut mettre. Hein. Donc, on déduit que ce produit de deux exponentielles, pour un atome libre, c'est tout simplement E puissance IKP de T sur M, E puissance moins H bar 2 K2 T sur 2M, ça c'est le commutateur de K de R0 KP0. Et P de T c'est P0, d'accord? Donc vous voyez qu'à ce moment-là, tout est calculable. Et qu'on fait ce calcul, on trouve immédiatement que I d'oméga, c'est delta de oméga moins oméga 0, moins H bar 2 K2 sur 2M, plus K valeur moyenne de V, on retrouve l'effet Doppler et l'énergie de recul. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si l'atome n'est pas libre, mais diffuse au sein d'un gaz classique? D'abord, je vais faire un calcul approché, je ne peux pas faire le calcul exact, c'est trop difficile. Je vais d'abord négliger les commutateurs, c'est-à-dire je néglige en fait l'énergie de recul, et à ce moment-là, on écrit E puissance IKR de T moins IKR de 0, c'est à peu près égal à E puissance IKR de T moins R de 0. À ce moment-là, pour calculer la valeur moyenne de cette quantité-là, il faut calculer finalement la valeur moyenne de R de T moins R de 0. C'est-à-dire qu'on a un atome au point R à l'instant 0 en un point donné, et on regarde la probabilité qu'il soit à un autre point un instant plus tard. Et pour calculer cette valeur moyenne, on va utiliser la théorie classique du mouvement brownien. Et on va dire que cette valeur moyenne-là, la valeur moyenne de cette quantité-là, c'est somme sur D3R de E puissance IKR, W de R et de T, où W de R et de T, c'est la fonction de distribution d'une particule brownienne qui, partant à l'instant T égale 0 de R égale 0, la probabilité de la trouver au point R à un instant ultérieur. Donc on ramène le problème à un problème de diffusion brownienne classique. Maintenant, cette fonction WRT est bien connue, on sait très bien qu'une particule brownienne localisée à un instant donné, un moment après, ça sera une gaussienne, et à des facteurs numériques près de pi dont je vous fais grâce, c'est une gaussienne, dont la largeur c'est dt ou d, le coefficient de diffusion spatiale. Donc W de R et de T, c'est E puissance moins R2 sur dt, ou d, c'est le coefficient de diffusion, qui est le produit du libre parcours moyen L par la vitesse quadratique moyenne V. Donc il faut que je reporte ça là-dedans, et j'ai à prendre le produit, la transformée de Fourier d'une gaussienne, et la transformée de Fourier d'une gaussienne, c'est une gaussienne. Donc, ceci, ça va me donner puissance moins K2 dt, le dt qui était au dénominateur va monter au numérateur. Et maintenant, pour avoir la forme de ray, il faut que je prenne la transformée de Fourier par rapport à t, maintenant. Et par rapport à t, c'est une exponentielle amortie. Et la transformée de Fourier d'une exponentielle amortie, c'est une lorentzienne. Donc, la transformée de Fourier de cette quantité par rapport à t, ça va être une lorentzienne centrée en oméga moins oméga 0, et qui aura pour largeur K2d. Donc, toujours à des facteurs 2 pi près, la forme de ré, ça fera 1 sur oméga moins oméga 0 au carré plus K2D au carré. Donc, je suis parti pour anatomie d'une ré Doppler qui est une gaussienne, et on arrive à une lorentzienne, centrée en oméga égale oméga 0 et de largeur K2V. Si je rappelle que D c'est LV, c'est K2LV. Donc, pour un gaz d'atome libre, la forme de ré est une gaussienne, dont la largeur, c'est la largeur Doppler qui est KV. Si la particule diffuse dans un gaz, sa ré devient une lorentzienne, elle change de forme, elle devient une lorentzienne, elle a une largeur K2LV. Alors K2LV, je peux l'écrire KV qui multiplie KL. KV, c'est delta nu D, c'est la largeur Doppler. Et LV, je peux l'écrire KV, KL, je peux l'écrire L sur lambda. Donc je trouve que la largeur de ré est la largeur Doppler que multiplie le facteur de réduction L sur lambda, libre par cours moyen, divisé par lambda. Je retrouve donc la même idée que tout à l'heure. Le facteur de réduction, c'est la libre par cours moyen, la distance entre deux collisions, divisé par lambda. Si ce rapport est petit, l'arrêt va s'affiner. Donc, à chaque collision, la vitesse de l'atome change d'orientation, donc l'effet Doppler change de signe, change de valeur, change de signe, et non seulement de signe, mais d'amplitude, mais le changement est très rapide, et à ce moment-là, la largeur totale est réduite, et la largeur Doppler, on appelle ça, donc ça c'est un phénomène qui est bien connu en résonance magnétique, c'est pour ça que Anatole Abraham était très sensibilisé à ce problème. Si on a un champ magnétique des spins qui relâchent dans un liquide, le champ local qu'il voit change très rapidement d'un moment à l'autre, à cause des collisions, et ceci réduit la forme de ré, c'est ce qu'on appelle le rétrécissement par mouvement. Donc, la suppression de l'effet Doppler dans le domaine des micro-ondes pour un gaz diffusant au sein d'un gaz tampon, ce n'est pas tout à fait l'effet Dicke initial, c'est pas tout à fait l'effet lambda Dicke, c'est plutôt un effet de rétrécissement par mouvement, mais ça fait intervenir la même idée, le paramètre de réduction, c'est toujours la distance caractéristique de localisation de l'atome divisé par la longueur d'onde du rayonnement. Bien sûr, il y a encore d'autres moyens de simplifier encore plus le problème, c'est de prendre des cavités où le champ électromagnétique dans la cavité a une dépendance spatiale pratiquement très constante, où l'échantillon est localisé dans une région de la cavité où la dépendance spatiale du champ est très très faible, auquel cas l'effet Doppler disparaît complètement. Donc, vous voyez, je pense que cet article de Dicke, à mon avis, il a eu une influence importante, parce qu'il a été repris après pour les ions piégés, il a joué un rôle très important pour les ions piégés, pour faire ce qu'on appelle le refroidissement par bande latérale, qui permet de refroidir les ions jusqu'au niveau fondamental de vibration. Là aussi, le paramètre de Lambda-Dicke, c'est maintenant quelque chose qui est parfaitement, complètement, constamment utilisé par les gens qui font du refroidissement laser. Mais c'est quelque chose qui est apparu donc, dans ce contexte, il y a une 50 ans, et donc cette idée de Dicke a montré qu'il était un grand physicien, et il avait donc une idée importante qui a eu des prolongements très 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 fructueux. Voilà, je vous remercie pour cette première séance.